Hello, c'est Margot, la fondatrice d'Oken Studio. Bienvenue dans Point Fort, le podcast qui te donnera les armes de la confiance en toi. Dans cette première saison, 10 invités font tomber le masque pour nous parler en toute franchise des échecs et des doutes qu'elles ont dû surmonter pour aller au bout de leurs ambitions. Alors écoute, j'espère que tu te sentiras confiante et rassurée pour libérer à ton tour ta force intérieure. Ce n'est pas juste parce que nous avons toutes les deux les cheveux courts que j'ai souhaité interviewer Fleur Copain dans Point Fort. Quand je l'ai rencontrée au studio en octobre 2022, elle m'a tout de suite scotchée par sa personnalité solaire, décontractée, son style pointu, mélange de Matrix et de James Bond Girl. Fleur était un moment charnière de sa vie.
C'est un truc tellement safe que la majorité des gens tiennent la tête folle, quoi.
Elle venait d'annoncer son départ de la célèbre compagnie du Crazy Horse.
Moi, j'adore monter sur scène, la lumière, l'odeur, enfin, tu sais, il y a tout un truc qui se met en place.
Pour se livrer corps et âme à un nouveau projet personnel, son premier album.
C'est la première fois que c'est mon projet à 100%.
Il en fallait du courage. J'étais admirative de sa prise de risque et de sa force mêlée de vulnérabilité. Dès lors que le projet de podcast s'est concrétisé, je savais que Fleur serait l'une de mes premières invitées. Quelles motivations l'ont poussée vers ce changement de carrière? Comment fait-elle face aux périodes de doute inhérentes à la vie artistique? Qu'est-ce qui lui donne de la force pour avancer vers l'inconnu? J'espère que ce nouvel épisode te plaira et sans plus attendre, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Fleur Copain. Eh ben Fleur, merci beaucoup d'être là pour inaugurer le podcast.
Ouais.
Je suis ravie de t'accueillir et j'ai hâte qu'on ait cette discussion toutes les deux parce que t'as un parcours incroyable.
Ouais.
Donc avant que tu te présentes, j'ai une petite surprise pour toi.
Alors voilà, le moment tant redouté. La surprise.
Ça va bien se passer.
Oui, je suis sûre que ça va bien se passer.
Fleur, ce qui m'a plu chez elle quand je l'ai rencontrée, c'est que c'est une rêveuse. Une rêveuse aux multifacettes qui veut réaliser ses rêves, qui va au bout des choses et qui, envers et contre tous, va réaliser des choses, tout en gardant une éthique humaine. Et ça, en fait, dans ce milieu, dans cette industrie où les gens sont prêts à tout pour réussir, ils vont des fois éteindre la morale ou faire des choses pas forcément très sympathiques. Et Fleur est vraiment pas comme ça, puisque elle garde ses valeurs humaines avec ses amis, sa famille, son entourage et aussi professionnellement parlant. Et je trouve que c'est le mélange parfait pour être une belle personne. Alors oui, ça fait beaucoup de compliments. Elle a aussi un caractère pétillant et elle a son caractère tout simplement. Mais elle reste toujours juste. Et c'est pour ça que c'est une personne que j'aime beaucoup. Je pense que Fleur est une petite étoile qui va bientôt éblouir le monde. Et que voilà, il va falloir que les gens soient prêts parce que ça va briller fort. Donc voilà, c'était Paul Duchemin pour Fleur Copain.
Ok. Bah c'est super, je t'ai bien maquillée ce matin.
Ah, attends, regarde.
Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il travaille, non? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi?
Bah ça fait plaisir, du coup, ouais, de voir ta réaction.
Je le déteste.
Du coup, j'ai un autre enregistrement.
Oh non, bah ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est encore?
Est-ce que t'es prête?
Non, je suis pas tout prête.
C'est parti.
Bonjour babe, j'espère que tu vas bien. On m'a demandé de te décrire en quelques mots. Alors, écoute bien. Et pour démarrer, si on doit parler du point fort de Fleur, je dirais que c'est la détermination. Fleur est, comme je l'appelle souvent, une opportuniste positive. C'est-à-dire que quand elle veut quelque chose, elle va le chercher. Peu importe la façon, alors c'est toujours très bien fait, mais en tout cas, elle va le chercher. Et c'est ce qui la caractérise fortement. D'ailleurs, en tant qu'artiste accompli, le choix de sa carrière aujourd'hui, actrice et chanteuse, le démontre fortement. Et si je dois parler de ce qui peut être le plus dur chez elle, à mon avis, ce qui doit la ronger le plus, je pense que c'est dans toutes les périodes de création. Elle n'aime pas les périodes de latence. Elle n'aime pas les périodes où il faut attendre trop. Elle a besoin un petit peu que ce soit toujours actif, en tout cas, même pas forcément sur de trop longues périodes, mais sur des timings assez serrés. parce qu'autrement, il y a le doute qui s'installe, et dans le doute, eh ben voilà, on ne se sent pas forcément bien, il y a des remises en question. Mais encore une fois, Fleur peut te surprendre, et elle est tellement déterminée qu'elle va rebondir et qu'elle va se remettre à retravailler fortement avec des méthodes de travail qui peuvent même être parfois assez surprenantes, même dans des processus de créativité très forts. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui la caractérise bien. Et moi, je suis assez fier de ça quand je la vois. C'est cette capacité à pouvoir s'adapter, à créer, et à pouvoir démontrer à quel point, en fait, elle est au niveau. Ah oui, j'oubliais. Attention, il faut être très à l'heure avec Fleur Copain parce qu'elle est ultra ponctuelle. J'espère que tout le monde a été à l'heure aujourd'hui pour ce podcast. Autrement, je peux vous dire que déjà, ça l'a vraiment énervé. Bon podcast à tous. Ciao.
Je suis très à l'heure, c'est horrible. Du coup, quand j'ai reçu le message, j'étais en mode « Oh là là !» Tu sais que j'étais en bas à 8h58 et que j'ai attendu 2 minutes pour ça. J'ai dit « Non, c'est très tôt, tu peux pas se donner d'avance aujourd'hui. » Mais j'ai attendu le 9h pour ça. Je suis vraiment horrible avec ça, mais merci beaucoup. Bah, après,
trop chaud.
C'est mon mari. Alors effectivement, lui, malheureusement, il se tape tout l'envers du décor et le pas drôle, mais et Paul aussi, finalement.
Bah effectivement, du coup, on m'a demandé à Paul et Étienne de te décrire, et je trouve ça cool parce que ça permet aussi de sans doute de voir des choses que les autres voient et qu'on ne voit pas suffisamment. Mais du coup, moi je vais te demander maintenant de te présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas avec tes propres mots.
Alors, on se reprend. Eh bien, je suis Fleur Copain, je suis chanteuse, comédienne et danseuse. Et je préfère me décrire comme artiste parce que je me dis que j'ai pas envie de me limiter à certaines formes d'art, en tout cas. Et je suis très contente d'être avec vous et d'avoir cette conversation et de partager ça avec toi parce que je sais qu'on a plein de choses en commun et je suis très contente. Voilà.
Oh, trop cool. Trop, trop cool. Écoute, on va commencer en remontant dans le temps. Fleur, est-ce que tu peux me dire quel type de petite fille tu étais?
J'étais relativement capricieuse, mais pas capricieuse pour avoir des choses, capricieuse dans la façon de faire. Je voulais toujours que tout soit bien fait. J'avais énormément d'attentes, tu vois, petite, je voulais que tout soit bien, que j'aimais les petites choses. J'ai une grande sœur, je voulais pas prêter, mais je voulais qu'elle me prête tout. Enfin, j'étais ce genre de petite fille, mais très déterminée. J'ai fait de la danse très tôt, donc très disciplinée très tôt aussi, avec une vraie discipline quotidienne d'aller à la danse, etc. J'ai commencé aux alentours de 4 ans, mais j'y allais déjà à 4 ans 5 fois par semaine, donc très disciplinée.
Vous étiez beaucoup de frères et sœurs?
Non, on est deux.
Deux. Okay.
J'avais ma grande sœur, donc on a 2 ans d'écart, et elle faisait de la danse au début, et on faisait toutes les deux de la danse et du cheval. Et donc, on avait notre rendez-vous. Bon, elle, c'était vraiment le cheval, son truc, hein, et moi, vraiment la danse. Mais on avait ce rendez-vous, donc une discipline vite et tôt.
Et c'est parce que tu as eu des rôles modèles, des femmes qui t'ont inspiré. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à commencer la danse aussitôt?
Alors, ma grand-mère était danseuse étoile. Elle était première danseuse en Russie et en Allemagne. Donc, il y avait un truc où elle m'a tout de suite transmis ça. Et en plus, ma mère, tu sais, c'est un peu cette espèce d'idée de dire bon, bah, ma fille, elle va faire de la danse, on va l'inscrire à la danse, voir si ça lui plaît. Et pour le coup, ça m'a plu. Donc, jackpot pour tout le monde, c'était cool.
Ta mère, elle a fait de la danse aussi?
Pas du tout. Ma mère, elle a fait des études de commerce, mais ma mère, elle faisait de la musique, elle avait un groupe de musique, ce qui est très drôle. Bon, ma mère avait un groupe de musique à l'époque, elle s'amusait avec ses copines. Et pas du tout, en fait, il n'y avait que ma grand-mère qui avait ce truc pour la danse. Et aucun artiste dans ma famille, à part ma cousine, mais bon, c'est plus tard, mais sinon pas du tout d'artiste dans ma famille.
Et oui, du coup, ta grand-mère, elle n'a pas voulu reproduire le modèle sur sa fille, elle a laissé...
Elle a laissé passer, parce qu'elle n'en a pas eu, donc elle a eu 2 garçons, elle a laissé passer le truc. Okay. Et je suis arrivée derrière, oui.
Ok, bon bah écoute, génial. Et du coup, donc, tu me disais, tu as commencé très tôt. Est-ce que tu t'es dit, jeune, c'est ma passion, j'ai envie d'en faire ma carrière?
Ouais, il n'y avait pas d'autre issue possible. Pour moi, ce n'était pas concevable que je fasse autre chose. J'étais bornée, je l'ai toujours été. Je ne pouvais pas imaginer faire autre chose que... Déjà, j'avais dans un premier temps, je me pensais sûrement pas capable de faire autre chose. Et surtout, c'était une nécessité d'en faire mon métier. Je pouvais pas avoir.
Même aussi jeune, tu t'étais dit, je ferais ça au rien.
Ah oui. Okay. Vraiment, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai pas voulu être astronaute, j'ai pas voulu être vétérinaire, quoi. C'était ça ou rien, quoi.
Et du coup, t'as fait toute ta scolarité en France ?
Non, j'étais en Afrique de mes 2 ans à mes CE2, donc 7-8 ans. Et donc là aussi, j'allais à la danse. Il y avait une école de danse où j'étais au Cameroun, donc c'est dans la capitale, c'était à Douala, et on allait à l'école de danse là-bas. Et quand je suis rentrée en France, je suis rentrée au conservatoire, j'ai fait sport-études. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Angers et j'ai fini à Tours parce que j'étais Angers, des petites histoires, et donc je suis partie à Tours finir mon bac, etc.
Ok, et suite donc au bac, qu'est-ce que tu as vu, enfin comment est-ce que tu as continué dans cette voie?
Alors j'ai eu une grosse déception quand j'ai, donc tu sais, quand tu sors de l'école, des conservatoires, tu passes des concours pour rentrer dans d'autres écoles supérieures, tu vois, pour faire en fait des études de danse, mais après, post-école quoi, après mm-hmm. l'école. Et grosse déception, parce que moi, je voulais être danseuse classique. Déjà à 15-16 ans, au moment de la puberté, mon cher et tendre professeur de danse m'a littéralement cassé en 1000 morceaux en me disant que, bah, comme j'avais des fesses et des hanches, il m'a dit, bah, tu seras jamais danseuse classique, en fait, professeur. Enfin, tu ne seras jamais danseuse professionnelle, en fait.
Et ta grand-mère, elle en disait quoi?
Gros manque d'objectivité à ce moment-là. Elle était persuadée, parce qu'elle voulait déjà... Elle a un peu lâché l'affaire, parce qu'elle voulait me mettre à l'époque à l'opéra. Et en fait, à 12 ans, ou à 13 ans, et en fait, ma mère a dit non. Ma mère a dit non, elle a dit non, c'est trop tôt, je la laisse pas partir à Paris toute seule, c'est mort. Donc je crois qu'elle a lâché le train à ce moment-là, par déception. Mmh. Parce qu'il y avait Stuttgart, donc c'était soit j'allais en Allemagne ou en Russie, soit j'allais à Paris. Ma mère a dit pas du tout, elle a rien compris, donc c'est mort. Et je suis pas partie, donc je crois qu'elle a lâché un peu le wagon à ce moment-là. Et là, j'avais plus de connexion particulière avec ma grand-mère à partir de là, côté danse, tu vois.
Ok.
Mais c'est pas plus mal, avec le recul.
C'est clair.
Sincèrement. La vie est vraiment bien faite.
Mmh. Bah sinon, je pense qu'elle t'aurait... Oui, elle aurait toujours eu des attentes extrêmement hautes.
Moi, je peux pas. On n'attend rien de personne, tu vois. Et très jeune, j'ai très vite compris ça, de toute façon. Donc, elle pouvait pas attendre quoi que ce soit de moi. Mais ma mère non plus, elle pouvait pas attendre que, tu vois, que je lâche tout ou que je reste avec elle à tout jamais, tu vois, dans la maison.
Oui, non, c'est clair. Après, en même temps, c'est bien que ta mère ait voulu te protéger aussi.
Elle voulait pas, tu vois. Okay. C'était pas ce genre de mère tout sacrifiée, enfin, tu vois. Elle voulait pas, elle voulait quand même que je finisse mes études correctement, que je sois encadrée, tu vois. Puis j'avais mon petit caractère, donc je pense qu'elle savait aussi qu'il pouvait se passer peut-être... des choses pas forcément très bien pour moi si je partais, tu vois.
Ok. Et tu dirais que on t'a accompagné dans ta passion, on t'a donné les moyens de pouvoir la poursuivre, mais est-ce qu'on t'a aussi incité à prendre des risques? Enfin, comment est-ce qu'on t'a aidé à gagner un peu en autonomie, tu dirais?
Franchement, moi, j'ai été très déçue et je l'ai vu avec le recul... de l'expérience, moi j'ai été déçue qu'on m'ait pas dit les choses comme elles étaient, qu'on m'ait pas dit qu'il y avait pas que la danse classique dans la vie, quoi. Et à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait que ça qui existait, ou la danse classique ou la danse contemporaine, mais il y avait pas d'autres options possibles, tu vois. Le cabaret n'existait pas, la variété, donc la télévision, etc. n'existait pas, danser pour des artistes, ça n'existait pas. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que c'était ça ou rien, quoi. Tu pouvais pas faire de carrière avec autre chose, et c'est ça que je regrette un peu. Donc on m'a jamais poussé à, dans mes retranchements, à me dire, OK, la danse classique, c'est peut-être pas une option, mais il y en a 10 000 autres. Vas-y, va bosser, va essayer. J'ai
dû le faire. T'as un talent, exploite-le, vas-y. Non.
On m'a dit que j'avais des facilités, on m'a dit que je dormais sur mes acquis, on m'a dit mais on m'a jamais dit que, enfin, pas dans ma scolarité, on m'a jamais dit que j'étais faite pour ça.
Ok, donc t'as vraiment dû finalement compter sur toi pour avancer.
Ouais, et puis les autres, en fait, c'est pas mes profs, c'est les autres, tu vois. C'est plutôt avec les personnes de mon entourage et les gens que tu rencontres en one shot par des spectacles, des concours, des machins, qui te donnent parfois plus de force, quoi. Ce qui est paradoxal.
Et donc, tu arrives, donc tu finis ton lycée. Ouais. Et donc là, donc je comprends bien que l'option de faire la voie, de poursuivre la voie classique s'arrête. Ouais. Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là?
Je pars dans une école de comédie musicale qui se trouve au Mans, parce que je suis très laid dans mes inscriptions, donc je dis bon bah ça c'est pas très loin, c'est facile, je passe le concours d'entrée, ça roule. Je reste à peine un an parce que ça me convient pas, je m'y retrouve pas du tout. Et en fait moi j'ai envie de travailler, ça c'est bon. En fait j'aime pas l'école, j'adore apprendre mais j'aime pas l'école, donc ça ne me plaît pas. Donc j'essaie de travailler tout de suite, donc je pars. Et je pars à Paris avec mon meilleur ami Julien. Je pars et je travaille. Je trouve un cabaret, je passe des castings, je vais dedans.
Comment tu découvres l'univers du cabaret, justement?
Alors, complètement par hasard, parce que c'est quand même l'industrie en France du spectacle qui cartonne. Enfin, ça marche, quoi. Il y a toujours des cabarets partout. Dans toutes les villes où tu iras, il y aura un cabaret, tu vois. Et qu'il soit petit, gros, moyen, peu importe. Et en fait, avis d'audition à l'époque sur Facebook, avis d'audition, et Julien dit, il y a un casting pour ça, viens, on y va, on tente, on passe, on verra bien, quoi. Mais tous les deux pris, j'ai dit, bon, bah, tant mieux, je suis en plus avec mon meilleur ami.
Il est danseur également?
Il est danseur okay. aussi, et on s'est rencontrés à Tours. Et on est partis travailler tous les deux là-bas pendant presque un an et demi.
Et quand tu pars sur Paris, tu pars avec quand même un peu d'argent en poche, enfin, pas du tout.
Que nenni, rien du tout. Mais je pars avec un job. Donc en fait, je fais des allers-retours en train. Ce job est très bien payé. En fait, à l'époque, c'était encore la belle intermittence où l'intermittence c'était le feu, l'intermittence du spectacle. C'était vraiment super. On travaillait hyper bien. C'était super. Et donc je fais des allers-retours à Angers pour rentrer chez moi. Et je pars juste travailler à Paris les week-ends, quoi.
Oui, c'est pas loin, c'est 2 heures en train.
Ouais, mais bah 1h30, tu vois, donc je faisais ça. Et ça m'allait, mais c'est ressous, non.
Ok. Et t'as fait ça combien de temps, alors?
Un an et demi.
Et c'était uniquement les week-ends? Ou t'as progressivement, t'as eu des jours en plus
Non, c'était du jeudi au dimanche, du lundi au mercredi, soit on s'entraînait, soit on sortait beaucoup le week-end, donc soit on se reposait, soit on passait des castings.
Ok.
Il y avait beaucoup de castings à l'époque aussi. Puis tu sais pas trop dans quelle tranche tu te trouves, hein, donc tu te cherches un peu artistiquement, donc t'essayes un peu tout. Tu passes par toutes les étapes du Disney, des comédies musicales, enfin tu vois, t'essayes tout, quoi.
Ok. Et du coup, ensuite, j'ai lu que tu pars en Chine. C'est ouais. juste après? Du coup,
c'est juste après. Je finis okay. mon contrat, on clôture le contrat avec ce cabaret. Et pareil, je vais avec Julien à cette fameuse audition qui me force à aller faire. Et je rencontre l'équipe Franco Dragon. Donc c'est un gros casting, il y a beaucoup de monde. C'est Reda qui fait la chorégraphie à cette époque-là. Donc on est très nombreux et nombreuses. Et c'est mon premier gros casting. Je vois que c'est la bagarre, quoi. Je vois que c'est la bagarre, mais ça me plaît.
J'imagine qu'il y a plein d'autres nanas...
qui sont super, ouais.
Qui postulent. Il y a combien de places disponibles?
Il y en avait 12. 6 et 6. 6 filles, 6 garçons.
Ok. Et toi, tu dirais que finalement, cette concurrence, cette compétition, ça t'a plutôt motivé ouais. plutôt que bloqué.
Bien sûr. Et puis... moi, je prenais à l'époque les castings comme des cours... tu vois, cours gratuit, et c'est aussi la façon de voir les autres, tu vois. Moi, je regardais beaucoup les autres, comment elles dansaient, comment elles se présentaient, comment elles s'habillaient en casting, etc. Enfin, c'est un cours géant, en fait, tu vois. T'apprends plein de choses sur la personnalité, tu vois, celles qui tout de suite sortent du lot parce que, ou leur façon de s'habiller, ou leur façon de danser, ou leur façon même de s'exprimer, tu vois. Et, moi, j'adore, tu vois. J'adore regarder les gens en règle générale. Donc là, il y avait 350 personnes, tu vois, à regarder.
Ouais, génial, effectivement.
C'est génial. Donc,
c'est
moi,
l'observation qui t'aide ouais, à t'améliorer.
Du coup, t'es complètement... Enfin, moi, du coup, ça me fait un peu sortir de mon corps et presque ça me relaxe, tu vois. Ça me déstresse, en tout cas.
Et du coup, quand tu passes les castings, est-ce que tu comprends un peu le profil de la nana qui est attendue? Comment est-ce que est-ce que dans ta tête, il y a une sorte de stratégie qui se met en place où tout s'est fait finalement de manière un peu j'irais pas du tout le hasard, parce que je pense que rien n'arrive par hasard. Je pense que t'as dû te donner à fond, etc. Mais est-ce que, ouais, t'as, je sais pas comment t'as analysé le truc sur le moment.
Ouais, alors ce qui est très drôle, c'est qu'à ce casting, moi je connaissais pas du tout le chorégraphe. Mais j'ai bien compris que c'était pour un cabaret à Macao, dans un théâtre. C'était un peu sensuel, un peu sexy, tu vois. Donc j'ai bien compris qu'il fallait être un peu sensuel et sexy. Et en fait, c'était, je pense que ce qui a fait la différence, c'est ma version de la sensualité et de ce qu'est pour moi la sensualité d'une femme, etc. Et en fait, je me souviens, c'est très arrogant ce que j'ai fait. C'était très arrogant à l'époque, mais il y avait beaucoup de gens. On passait par un groupe de, je sais pas, de 20. Et en fait, elle dansait, ça balançait ses meilleures skis, les jambes, les trucs. C'était des brutes, hein. Les meufs étaient vraiment sublimes et très très forte. Et en fait, moi, je sais, c'est pas ma version du sexy, tu vois, descendre, marcher à quatre pattes, c'est pas ma version du sexy. C'est beau, c'est esthétique, fine, mais c'est pas ma version du sexy. Et je me souviens m'être plantée au milieu j'étais dans un coin, je me suis plantée au milieu, en fait, j'ai pas bougé et j'ai juste pris une pause. En fait, j'ai juste levé mes mains et j'ai juste fait ça et j'ai juste passé mes mains dans mes cheveux. Et en fait, j'ai juste fait ça pendant les 20 dernières secondes d'impro qui étaient libres. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence à ce moment-là.
Aller finalement dans des postures qui ne sont pas aguicheuses, juste exprimer
qu'est-ce que
sensualité, c'est pour toi, la sensualité, de manière simple. Et, ouais.
Et c'est un peu ma première rencontre avec la sensualité et ce que tu as envie de transmettre à travers ton corps, quoi.
Avant ça, en fait, t'avais compris, quand tu dansais, t'avais pas sans doute pas saisi la portée, effectivement, du pouvoir de ton corps.
Pas du tout. C'était juste purement technique et esthétique. Voilà. Mmh. Esthétique, c'est bien, mais esthétique, c'est vide. Si t'as pas d'histoire derrière, en fait.
Ok. Et donc ensuite, tu pars pendant deux ans.
Je pars pendant 2 ans, best life. Trop chouette, trop bien. Je rencontre des gens incroyables. Je travaille avec les meilleurs danseurs de Paris et ensuite avec les meilleurs acrobates et artistes du monde. Enfin, c'est trop bien, c'est trop chouette. Trop, trop chouette.
Et vous bougiez de ville en ville?
Non. On était basé à Macao, mais on travaillait 5 jours par semaine.
Ah
et,
oui.
Et le reste du temps, parfois on avait des week-ends de trois jours. Mais tu pars, t'es à 4 heures de Bali, t'es à 2 heures de la Thaïlande. Donc, j'ai 21 ans.
Oui, c'est super
fête.
Jeune.
Ouais, c'est la fête.
Au bout de ces 2 ans, donc, qu'est-ce qui se passe? Ton contrat s'arrête? Ouais. Toi-même, est-ce que pendant ces 2 ans, donc, on a compris, t'as bien voyagé, bien kiffé, est-ce que tu commences à te dire, bah tiens, dans la suite logique des choses, j'aimerais faire ça.
Quand un truc pareil s'arrête, c'est un peu la crise d'abord. Parce que tu te dis, wow, je suis partie 2 ans, donc j'étais pas en France, et tu dois revenir en France. Donc t'as loupé 2 ans à Paris, quoi. C'est énorme.
T'es jamais revenue une fois en 2 ans?
Non.
Ok.
Je suis restée là-bas pendant 2 ans. Je suis revenue une semaine pour des vacances, voir ma famille, mais c'est tout. Donc j'ai loupé 2 ans à Paris, c'est énorme. Je sais pas ce qui se fait, je sais pas ce qui se passe. Puis t'as pas d'agent quand t'es danseur, hein. C'était tout seul, hein. Y a personne qui t'aide. Mais je pense vraiment avoir une bonne étoile et je vais pas. Je vais vraiment le dire, j'ai vraiment de la chance. Je suis contactée pour un job parce qu'à l'époque déjà j'étais un peu sur les réseaux sociaux et Instagram commençait à grossir, etc. Donc je pense qu'ils m'ont trouvée via Instagram à cette époque-là déjà. Et je book un job en Allemagne et en fait je me retrouve avec une équipe de dingue, avec tous les danseurs de Paris. On est une douzaine et c'est tous les meilleurs danseurs de Paname, ultra connectés, ultra gentils, et donc des Alexandra Trovato, des Daniel Ralph, des Jonathan Gendrin, en fait c'est une équipe très très solide à Paris qui travaille beaucoup, et je me retrouve avec eux, donc et je m'entends hyper bien avec eux, et c'est grâce à eux, c'est quand je suis rentrée à Paris, j'ai retravaillé tout de suite parce qu'ils m'ont présenté tu vois un directeur artistique, Stéphane Jarny, Camille Wally, Hakim Gorham, etc., qui à l'époque, qui d'ailleurs toujours, travaillent beaucoup en télé, comédie musicale, etc. Donc grâce à eux, j'ai pu bosser tout de suite, quoi.
Ok. Après, c'est un mélange de hasard et quand même d'opportunités que tu as su de saisir quand même.
Complètement, mais tu peux ne pas tomber sur des gens aussi bien, tu vois. Et là, j'ai vraiment la chance de tomber sur des gens vraiment bien. Donc, c'est vraiment... Je suis persuadée que c'est aussi une bonne étoile, tu vois. Il y a un truc d'univers.
Et donc, suite à... Quand tu es rentrée sur Paris, là, est-ce que le crazy était... est-ce que tu as tout de suite rentré
le... Premier indice pour le crazy, c'était justement à Macao où une ancienne du crazy est avec moi sur scène, qui m'en parle une première fois. Je dis, ouais, ok. Elle me dit, Maëlle, tu devrais essayer quand tu rentres. Je dis, ouais. Je rentre à Paris, je fais une comédie musicale et l'assistante de Kamel Wally à l'époque, Marjorie Hassion, on fait un Bercy, elle me crie à travers le Bercy, on fait les 10 commandements. On n'est pas au Crazy Horse, dit Fleur, alors tu te concentres, t'es censé être une petite esclave, parce que dans les 10 commandements, il y a les esclaves, etc. Donc arrête de faire la belle. Moi, j'expose, on a Bercy, elle te crie ça à travers les 100 mètres qui te séparent. Et c'était la deuxième chose, et après ça, je me suis dit, ok, les 10 coms s'arrêtent, et là, je passe mon casting pour le Crazy.
Et mais le Crazy Horse, tu connaissais de bouche à oreille ou ouais, t'avais une image déjà, enfin réputation du lieu.
Alors oui, j'avais rencontré 3 danseuses du Crazy qui étaient incroyables, qui étaient trop belles, hyper inspirantes. Enfin, donc je m'étais dit bah bon, si je veux faire ça en fait, qu'est-ce que c'est le dos? Mais j'avais aucune idée de ce qui était le Crazy en soi.
Ok. Et quand du coup tu passes les premiers castings, est-ce que tout de suite tu comprends un peu l'esprit crazy, ce qu'on attend d'une danseuse?
Non, parce que le casting il dure 2 minutes, t'es mesuré, pesé, tu vas sur scène, ça ouvre les rideaux, t'as une musique que tu connais pas, tu bouges et merci, au revoir quoi.
Ah oui. Expéditif
de ouf, mais en même temps avec le recul je sais pourquoi. Ça se voit cash en fait. Tu fais tout de suite la différence entre une nana qui peut aller au crazy et une qui peut pas. Enfin, qui le crazy ne correspond pas quoi. Tout de suite.
Ok. Et en fait, finalement, d'avoir fait ces premiers shows en Chine, tu t'es rendu compte que finalement, ça te plaisait bien de jouer de ton corps et le travailler d'une autre manière que d'une manière plutôt classique. Qu'est-ce que toi, tu apprécies finalement dans ce style de danse à ce moment-là?
Je pense que c'est le pouvoir de séduction d'une femme. Il est autant bénéfique que l'inverse. Le rapport au corps, le rapport à l'esthétisme, à la beauté, il est subjectif. On est ancré encore dans des codes très très forts hein, de ce que doit être la beauté, mais en fait au Crazy il y a une telle liberté et j'avais tellement le droit de faire ce que je veux sur scène et d'exprimer ce que je veux sur scène que en fait ouais j'avais on l'appelle avec les filles on l'appelle le monstre à l'intérieur tu vois un monstre de d'envie de pouvoir de tu vois de t'es sur scène et t'as un espèce de t'as complètement un ascendant sur la situation et de contrôler ton voilà ta sensualité ton corps et ça c'est en fait c'est très fort mais c'est aussi positif que négatif parce que ne nous mentons pas quand t'es au crazy ceux qui connaissent savent mais ceux qui connaissent pas t'es stripteaseuse quoi.
Oui.
Mais moi j'adore.
Aujourd'hui, Cabaret a encore une image très.
Moi j'adore ça quand les gens me disent ah, mais tu travailles au crazy, mais là, c'est pas. Je dis si, c'est les stripteaseuses, oui, bien sûr. Parce que les gens ne savent pas. Moi j'adorais. J'arrivais en soirée, t'as un tocard qui vient te parler, qui te demande ce que tu fais dans la vie. Au début, tu réponds pas, tu dis que t'es artiste, puis après, c'est un tocard qui creuse. Et tu le sens et tu le sens arriver en fait. Moi je l'ai senti arriver 15 fois. Donc soit tu réponds pas et tu mens. En fait, au bout d'un moment, c'est bon, j'ai pas envie de mentir, tu vois. Et je me suis dit, je travaille au crazy, puis t'as une chance sur deux que le gars dise, ah ouais, mais c'est pas les meufs, vous dansez nu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, ok. Mais il connaît pas, mais moi, ça me passionne. Après, j'ai pas le temps d'éduquer la terre entière, mais quand ça en vaut la peine, parfois tu le fais.
Moi, en fait, je pensais que tu allais parler à la fois de un peu l'envers de la pièce, c'était surtout de se dire qu'effectivement, tu te rends compte du pouvoir que ton corps peut exercer, un pouvoir de fascination, où finalement, les gens n'ont Dieu que pour toi sur scène, dans finalement un exercice qui est quand même très artistique, avec des jeux de lumière, des costumes, qui vont justement, je trouve, et pour le coup, pour moi, c'est vraiment pas du striptease tel qu'on peut l'imaginer. C'est vraiment un show recherché et avec un travail de dingue derrière qu'on n'imagine pas.
98% des gens qui ont vu le show sortiront avec la même idée que toi. Ils vont arriver avec plein de préjugés, d'a priori sur ce qu'est le crazy, parce qu'on va se souvenir du crazy, enfin notre génération se souviendra du crazy à minuit le 31 décembre pour le nouvel an à la télé, tu vois. Et tout le monde, hein, que ce soit homme ou femme, qui rentre sceptique au crazy en se disant « qu'est-ce que je vais voir ?» en sort en disant « mais en fait, trop bien, inspirant, beau, esthétique, artistique, etc. » mais si t'as pas vu le show et que tu ne sais pas où tu vas, c'est particulier. On ne dit pas qu'on va au Pink Paradise, et j'adore le Pink Paradise, j'adore les filles du Pink. On a compris, c'est inscrit qu'il y a une différence, mais moi, c'est ma scène, c'est ma plus belle scène, donc forcément, je la défends. Et forcément, je l'ai défendue. Et je la défends encore. Malgré toutes les choses qui ne vont pas parfois, je la défendrai toujours, c'est ma plus belle scène.
Et tu dirais que, aujourd'hui, les critères pour être une femme du crazy, est-ce que, du coup, il y a des contraintes de poids, j'imagine, de taille et d'âge?
Bah oui, il y a des contraintes de poids et de taille. D'âge, plus ou moins l'âge. Mais oui, poids et taille, mais ça, c'était aussi... C'est aussi un fléau de danseurs en règle générale. C'est que tu passes ton temps devant un miroir nu ou très peu habillé, mais que ce soit au crazy ou ailleurs. Donc tu passes ton temps à te regarder, à regarder ton corps, à quoi il ressemble, ta cellulite, tes vergetures, ton ventre, pourquoi tu as des poignées d'amour, pourquoi il y a un pli au-dessus de mon genou. Enfin, tu vas le regarder tous les jours. Et ça aussi, pour moi, c'était trop fatigant. Je l'ai fait pendant 15 ans, quoi. C'est trop fatigant. C'est trop fatigant.
Non, c'est clair. C'est vrai que... du coup, aujourd'hui, tu dirais que le rapport que tu entretiens avec ton corps, c'est un rapport de bienveillance ou au contraire, tu vas être toujours très exigeante avec toi-même?
Alors, moi, j'ai toujours de bons rapports avec mon corps. Je m'entends bien avec. Je m'entends bien avec parce que j'ai pas le choix, quoi. Je vais rester avec lui pendant... jusqu'au reste au bout de ma vie, donc j'ai pas le choix. J'ai accepté aussi que quand t'es une femme, ton corps c'est comme ça, qui change, qui se transforme, j'ai accepté. Donc maintenant j'ai un regard assez bienveillant, je fais du sport, mais je le fais pour moi, quoi. Je le fais pas parce que je sais que je dois mettre un bikini cet été, tu vois. Je le fais parce que je me dois de le faire et je me respecte, donc je le fais parce que ça lui fait du bien. Mais je ne le fais pas parce que j'ai mangé 4 raclettes. Et parce que je dois rentrer dans un maillot de bain ou dans une robe ou dans un truc. J'ai jamais fait, je ne le ferai pas.
Ok, donc tu dirais que tu as plutôt... Maintenant, peut-être depuis que tu ne danses plus de manière quotidienne, un rapport peut-être plus apaisé avec ton corps.
Oui, déjà je me regarde beaucoup moins sous toutes les coutures. Forcément, après je reste quand même dans un métier d'image. Donc oui... Je reste dans un métier d'image, mais je suis beaucoup plus tranquille avec mon image. Beaucoup plus tranquille avec mon image.
Du coup, le crazy, tu es resté combien de temps?
5 ans.
5 ans. À un rythme de 5 jours sur 7?
Ouais, 6.
6 jours sur 7? Wow.
5, 6 jours sur 7, 2 shows par jour, 3 le samedi, 3 le vendredi.
Et comment tu fais pour tenir à ce rythme de fou?
C'est pour ça, je ne sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ça sert à rien.
C'était la fatigue à un moment qui s'est installée.
Mentalement, c'est trop épuisant. Physiquement, c'est trop épuisant. Et puis, 5 ans, c'est bien. Et je ne voulais surtout pas partir. Tu vois, la danse, il y a un palier. Une fois, il y a un plafond, de toute façon. Et une fois que tu y arrives, il n'y a pas de... Tu ne peux pas aller dessus. Donc, tu es forcément obligé de redescendre à un moment ou à l'autre. Je pense que je l'ai atteint. Le plafond, tu vois. J'ai eu ma première grosse blessure. Je me suis fait une déchirure derrière les skis, un truc énorme comme ça. Donc, je pouvais plus lever la jambe. Je marchais en... J'avais 90 ans. Enfin, tu vois, il y avait tout un truc un peu horrible. Et...
C'était plutôt vers la fin
ou... C'était la fin. C'était... c'est très simple. Je me suis blessée au mois de décembre et j'ai demandé à partir au mois de janvier. Fin janvier.
Ok. Ok, là, tu t'es dit, mon corps me parle.
C'est... Ouais. T'es obligé de t'écouter. T'es obligé de t'écouter, ça a rien de forcé. Et je voulais pas partir, tu sais, genre, les gens qui disent la direction. T'es sûr, Flor, que t'as pas envie de partir maintenant? C'est bon, tu vois, je voulais partir. Je voulais presque qu'on me retienne, mais ça, c'est mon ego. Ça, c'était mon ego. Vraiment. Purement mon ego. Je voulais qu'on me retienne, je voulais qu'on me dise non, Flor, papa, c'est super ce que tu fais. C'était vraiment mon ego. Et je savais que si je partais à ce moment-là, en plus, j'avais la musique derrière et je voulais me concentrer dessus et je voulais me focaliser dessus à 100%. Je savais qu'il fallait que je parte et je voulais un peu me. Comme petite vengeance en règle générale sur ma carrière de danseuse, je voulais vraiment qu'on me retienne. Parce qu'on passe, on passe ta vie à te dire que t'es remplaçable. Là, je voulais qu'on me dise pour une fois qu'on admette que je l'étais pas.
Parce qu'en 5 ans, tu avais commencé à te faire un nom ouais. dans le milieu. J'ai vu que t'as été dans pas mal de clips.
Ouais.
Enfin, pendant, tu dirais que le crédit, ça t'a aidé à, enfin, plus les comédies musicales, mais d'être sur Paris, ça t'a aidé à vraiment, enfin, tu ne faisais pas que du crédit finalement. Tu faisais plein de projets autour.
Bah, vraie carte de visite. Puis dans l'inconscient collectif, les gens, ils disent crédit, donc ils pensent que t'es, incroyable, parfaite, enfin il y a un truc un peu mystique derrière le... Bon, après, t'as compris, tu me rencontres après, t'es...
Non, tu l'es, je te rassure.
Voilà, non, mais enfin, tu vois, il y a un truc un peu... C'est un routier, finalement, tu vois, elle... Mais je m'en suis vachement servie, en fait. Je me suis autant servie du crédit qu'ils se sont servis de moi.
Oui.
C'était donnant, je le savais. Ils m'ont... voilà, ils m'ont pompé tout ce qu'ils pouvaient. Bah, moi aussi. Et c'était très ok. C'était un accord complètement.
L'opportuniste positif, comme disait Étienne.
Ouais, complètement. Non, mais vraiment.
En fait, dès le début, tu t'es dit, c'est une super carte de visite.
Complètement.
Et est-ce que, donc, tu me parles de la musique.
Ouais.
Est-ce que la musique, finalement, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, que tu as découvert plus ou moins pendant le crédit, ou c'est vraiment une passion commune qui s'est développée en même temps que la danse au fil de tes expériences?
Non, en fait, la musique, c'est vraiment venu par hasard parce que j'avais une copine au Crazy qui venait d'avoir une rupture difficile avec son amoureux qui était un connard.
Okay.
On ne le remercie pas, mais je le remercie quelque part un petit peu, c'est pas bien, mais parce qu'en fait, elle a écrit à la suite de cette rupture énormément de chansons, énormément de poèmes, énormément de nouvelles. C'est une autrice avec énormément de talent. Qui s'appelle Capucine Eri. Et en fait, je me souviens, on est en tournée en Uruguay avec le Crazy. Et on est dehors, fumer des clubs et boire de la pina colada. Et elle me dit ça, elle me dit, mais j'écris plein de chansons, ça me fait du bien, c'est thérapeutique, machin. Et je dis, ok, bah moi j'ai deux potes qui ont un groupe, est-ce que t'aimerais, je sais pas, que je les contacte, comme ça on se met en relation, et puis toi, voilà, t'écris des chansons pour eux et ils composent. Et elle me dit, bah, toi, t'as pas envie de chanter, s'il faut, ça te plairait et tout. Je dis, bah, vas-y, on essaye. Je dis, bah, pourquoi pas, tu vois. Et on se retrouve tous les trois et on commence cette aventure. Donc, c'est arrivé vraiment par hasard, tu vois.
Ok. Et donc, au bout de ces 5 ans, la fatigue s'installe, la blessure. Mmh. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, bah, en fait, cette passion, j'ai envie de m'y consacrer à 100%.
Ouais.
Et donc suite à cette première expérience, à cette première finalement découverte des textes de ta collègue et amie, est-ce que t'as essayé d'avoir des projets où tu chantais? Est-ce que t'as constitué un groupe avec tes amis? Enfin, comment ça s'est
fait? En fait, on est passé par plein. Ça a duré 2 ans, hein, le processus de création et de trouver où est-ce que j'avais envie d'aller. On est passé par plein de chemins. Alors, Capucine est sortie du projet assez rapidement au final, puisqu'elle n'était pas prête à se consacrer à ça, ce qui est complètement normal. Et donc, elle est sortie du projet et nous, on a continué et on a cherché plein de voix. Moi, je suis productrice de mon projet musical à 100%. Eux, ils me produisent mes sons. Ils sont producteurs musicaux, tu vois. Donc, on est complètement deux identités différentes. Eux, ils ont aussi leur groupe de musique, donc Dame Civile, avec leurs chansons et leurs prods. Et moi, j'ai vraiment, moi, Fleur Copain. Mais on est passé par plein de chemins, tu vois, avant d'arriver à ce truc.
Ok, donc t'as fait mûrir le projet musical en parallèle.
Ah ouais, pendant 2 ans.
En parallèle du crédit.
J'avais trop peur. Je, pouvais rien lâcher, rien n'était concret, tu vois. Je suis pas chanteuse, c'était pas une passion depuis que j'avais 5 ans, je voulais pas, tu vois, j'avais déjà une première passion, j'y arrivais au bout, donc il m'en fallait une autre. J'adore le cinéma, donc en plus j'avais l'opportunité de tu vois, dans tout ce mélange-là, de tourner dans une série, donc ça m'avait plu aussi. Puis après, je me suis dit, bah, ne choisis pas, Fleur, en fait, tu peux faire les deux. Donc, je peux faire de la musique et je peux aussi faire du cinéma si je veux. Puis, si de temps en temps, j'ai envie de danser, je peux. Mais la musique reste un truc où, en fait, j'ai le droit à tout. J'ai le droit et à danser, et à jouer à la comédie, et à chanter. Donc, ça me plaît.
Mmh. Et le Crazy, c'était un genre CDI, c'était...
CDI. Ouais, okay. CDI.
Donc là, en fait, aussi, c'était un peu aussi la première fois que tu avais une sorte de sécurité...
T'as une sécurité financière, alors que dans la danse, ça n'existe pas. T'as une sécurité financière, une sécurité de l'emploi.
Donc, est-ce que finalement, quelque part, il y avait quand même un peu, pas cette emprise, mais finalement, j'ai la peur de dire, est-ce que toi, tu te sentais légitime, justement, à te lancer dans la chanson?
Ah bah, non, mais tu quittes un truc... Tu quittes un truc tellement safe que la majorité des gens te disent, mais t'es folle ou quoi? Ne fais pas ça. T'as un CDI, tu travailles, tu commences le soir à 18h, tu finis à minuit, qu'est-ce que tu veux? C'est super. Les gens peuvent venir te voir sur scène, t'es un peu starifié. Non, c'est ridicule de partir. Mais c'est pour ça qu'il y a des filles qui restent 19 ans.
Ah ouais?
19 ans.
Waouh!
Bah waouh! Bah ouais, mais non, enfin, tu vois, ouais. T'es pas censé rester 19 ans. T'es artiste, t'es pas censé faire un métier de bureau. Tu peux pas rester 19 ans dans la même boîte. Mmh. C'est pas possible. Et sur la même scène à faire la même chose. C'est pas possible. Donc, c'était un no-go de ouf pour moi de rester plus, tu vois. Mais j'avais dit en signant. Et ils avaient tous rigolé, je me souviens. Mais ça, c'est peut-être mon mauvais caractère, tu vois. J'ai vraiment voulu leur donner tort. Et, parce que quand j'ai signé mon CDI, j'ai dit, de toute façon, les gars, 5 ans et ciao, hein. Et à l'époque, tu vois, tous les 5 ans, on t'offre un bijou au Crédit Tiffany. Donc j'ai dit, j'attends mon cadeau des 5 ans et je m'en vais. Et tout le monde avait dit, bah non, Fleur, regarde, Vénus, ça fait 19 ans qu'elle est là, je sais, ouais. À 5 ans, c'est très simple, je suis partie le 31 mai et j'ai signé mon CD en septembre, 5 ans plus tôt.
Okay.
Vraiment, après, je suis rentrée le 7 avril au Christ. Enfin, tout était relativement aligné, la boucle était bouclée.
Ok, t'as tenu parole. Et moi, j'avais une question à poser plus par rapport à comment tu gères le stress et l'anxiété, notamment sur les castings. Tu me disais que tu voyais finalement la concurrence ne te motivait plus et te motivait à montrer tout ce que tu valais.
La concurrence, elle est positive.
Exactement. Et est-ce que tu dirais que, au contraire, au moment de monter sur scène, est-ce que c'était le même type de stress et comment tu le gères à ce moment-là?
Moi, j'adore monter sur scène, j'adore avoir envie de faire pipi avant d'y aller, pas du tout. J'adore ça, c'est trop. La lumière, l'odeur, enfin, tu sais, il y a tout un truc qui se met en place, en fait, tu sais
pas. Ok, même pas peur, quoi.
Ah non.
Ok.
Si t'as pas peur de monter, moi j'ai peur maintenant, tu vois, je fais un concert le 13 décembre, j'ai peur maintenant, là j'ai peur.
C'est ton premier concert?
C'est mon premier concert, là j'ai très très peur. Mais je sais que le 13, je vais arriver dans la salle, je vais monter sur scène. Terminé. Je vais être trop contente. Mais il faut que je m'en souvienne, c'est tout. Pour l'instant, j'ai peur, mais...
Oui, après, effectivement, je pense que c'est la peur de la première fois, mais techniquement, c'est la même chose. Enfin, tu vas te retrouver sur scène.
C'est les mêmes gens, c'est le même public, c'est la même chose. Mmh. La seule différence, c'est que là, je vais devoir faire différent sur scène.
Est-ce que tu penses que ce qui peut être stressant, c'est que avant, c'était finalement, tu communiquais avec ton corps?
Ouais,
et là, c'est vrai qu'on va, en fait, ça va être une autre partie du corps. Et effectivement, c'est ça qui peut être un peu.
C'est ça qui est déroutant, c'est que tu peux danser, c'est bête, mais tu peux danser malade. Moi, j'ai dansé avec la gastro, avec la grippe, avec tout, j'ai dansé, tu vois. Chanteuse, je sais pas. C'est un peu l'inconnu. Tu vois, il faut que tu utilises ta voix. Pas pareil, quoi.
Mais en fait, t'as le goût du challenge.
J'ai envie d'y aller.
Et ça fait... En fait, finalement, c'est un peu le... J'ai une question que je voulais te poser. C'est un peu le dernier moment où tu t'es dit « j'ai peur, mais j'y vais ». Mais j'ai l'impression que c'est ce moment-là, sur scène.
Ouais. Bah, c'est le « j'ai peur, j'y vais », c'est les moments sur scène. Après, le « j'ai peur, mais j'y vais », c'est la fin du Crazy et le début de la musique, tu vois.
Est-ce que tu dirais que la fin du Crazy, ça s'est imposé à toi?
Non, c'est vraiment une décision que j'ai prise. Mais parce que tu dois prendre des risques dans la vie pour avancer. Si tu restes dans ton dans ton confort, tu seras toujours confortable, mais je suis pas convaincue que tu sois très très heureuse au bout du chemin, quoi. Il faut prendre des risques dans la vie. Vraiment. Je dis pas que, voilà, une fois de plus, je dis pas qu'il faut y laisser sa chemise et des organes, mais prendre des risques, rencontrer des gens, fake it until you get it, tu vois. Il y a un truc, combien de fois j'ai dit, dans ma carrière que je savais faire un truc alors que pas du tout, tu vois. Et en fait, t'arrives sur scène, tu bosses, moi j'avais booké un truc de voguing à l'époque, je m'en souviens toute ma vie, je ne savais absolument pas faire de voguing, mais j'ai dit ouais bien sûr, y a pas de souci. Et je suis arrivée sur le job, j'avais regardé plein de vidéos, des tutos et tout, et en fait ça marche, fake it until you get it. Et si t'es, je pèse mes mots, je veux pas me présenter bancaire demain matin, tu vois, mais il y a un truc, tu peux le faire, il faut prendre les opportunités, ne te mets pas dans la merde évidemment, mais tu peux le faire. Si tu te sens capable,
des moyens.
Tu te donnes des moyens, tu travailles, c'est tout. Il faut travailler, il n'y a rien sans le travail de toute façon.
Et du coup, donc là, tu montes sur scène le 13, tu m'as dit, et tu as déjà sorti 3 titres.
Ouais.
Ça fait combien de temps, en fait, s'est écoulé entre le Crazy et la sortie là, de ces premiers titres?
1 an.
Ah oui, c'est relativement court.
Mais parce que ça faisait déjà 3 ans que j'étais dessus, tu vois. Donc ça fait 1 an, j'ai commencé sérieusement à faire des résidences musicales avec les gars. C'est horrible, avant on disait avant ou après Jésus-Christ, maintenant c'est après ou avant Covid. Donc juste l'été après Covid, j'ai commencé donc en 2021 à faire ma première vraie résidence avec les gars. On avait déjà beaucoup bossé avant. Et c'est là qu'est sortie La Flemme, par exemple, tu vois, le son Flemme, etc. Mais...
Du coup, ça a été quoi ton process créatif? Qu'est-ce que tu as voulu mettre de toi dans ces chansons?
J'ai voulu raconter mes histoires. J'ai voulu apporter un peu de légèreté à mes histoires. Raconter les histoires de mes copines, tu vois. J'ai 30 ans, tu vois. Il y a aussi un truc où j'ai une full carrière derrière. Je suis très, très bien dans ma trentaine. Je suis trop contente d'y être. Je me sens libre et je me force plus à rien, je fais que ce que je veux. Il y a un truc un peu cool, et j'avais envie de le raconter en musique, tu vois. Et dans l'EP1, c'est, tu vois, je voulais pas trop parler d'histoire d'amour. Alors, il y en aura quand même une chanson d'amour, tu vois, mais je voulais vraiment parler d'un peu, dans la légèreté, tu vois, de mes angoisses. Tu vois, Vent Violent, il raconte un peu la dualité entre moi et moi-même, tu vois, de ce truc un peu toujours à te pousser à te dépasser, à faire, à, tu vois, c'est un peu ton alter ego terrible, tu vois. Plus tard, c'est un peu la rétrospective de ma vie passée, tu vois, des rencontres que j'ai pu faire, des idées que je me suis donné très jeune et très vite. Et Flemme, c'est Flemme, quoi. Flemme, c'est moi, voilà. C'est ça.
Moi, j'ai l'impression, au fil de notre échange, que vraiment ton point fort, c'est ta détermination, où tu fonces en fait, et tu ne réfléchis pas trop si tu es capable ou pas. Enfin, et je trouve que c'est une grande force quelque part, pas trop à attendre de t'autoriser à faire les choses. J'ai l'impression que tu fonces.
Ouais, moi je mets personne dans la sauce.
Mais que tu bosses, en tout cas derrière, pour y arriver. C'est-à-dire, je dis que je vais faire du vlogging, mais je vais quand même bosser le truc.
Ah ouais. Je mets personne dans la sauce, tu vois. Ouais. J'essaie de jamais mettre personne dans la sauce, à accepter des choses que je ne serais pas capable de faire, tu vois. Faut doser, tu vois, c'est ce que je dis. Il faut quand même rester un peu... Je sais que je suis capable de faire certaines choses et je sais mon palier à ne pas dépasser, tu vois, mais... Oui, parfois, il faudrait peut-être que je dorme sur les idées, c'est sûr. Peut-être que oui, vraiment. Mais en fait, je suis très bien entourée aussi. Hein. Bah, on a vu les deux vocales, en fait. C'est un extrait de...
C'est clair.
Un extrait très fort et très important pour moi, mais je suis très, très bien entourée. J'ai des gens...
Est-ce que, du coup, dans cette dynamique, est-ce qu'il y a un moment, t'as quand même eu un échec peut-être cuisant et tu t'es dit, ah, peut-être que maintenant, il faut que je fasse attention.
Oui. Cuisant, des déceptions, quand tu te fais pas confiance. En fait, les échecs, c'est au moment où je me suis pas fait confiance, où je me suis pas écoutée. Et j'aurais dû m'écouter, parce qu'au pire, tu t'en veux qu'à toi-même. Mais au moins, tu sais que c'est toi. Là, tu fais confiance à d'autres personnes, tu donnes ton projet à d'autres personnes. Moi, c'était un clip, une musique, tu vois. tu donnes, tu dis moi je pourrais pas le faire.
Donc ton premier clip, c'est ça, ouais. tu as confié la
J'ai confié.
La production ou ouais, la réalisation ?
La réalisation.
La réalisation.
Ouais. Bon, c'est pas grave. Tu vois, on s'est pas entendu. Artistiquement, on s'est pas entendu. Dans nos attentes, on s'est pas entendu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent ou quoi, hein. C'est pas ça, hein. C'est juste qu'on ne s'est pas entendu. Et je me suis pas écoutée dans tout le processus parce que j'aurais dû dire stop plus vite, plus tôt, et je l'ai pas fait. Bon, quelle déception, parce que c'est de l'argent. Moi, c'est mon argent, hein, qui part. Et au-delà de l'argent, c'est l'investissement monstrueux que t'as mis dedans. Tu vois, t'as appelé des gens, t'as sollicité de l'aide, et le résultat n'est pas là, quoi. Ça c'est le pire.
Et donc tu t'es dit pour les prochains, en fait là c'est moi qui gère, ouais. Même si j'ai pas l'expérience, je vais l'acquérir en faisant quoi.
Ouais. Je suis presque fait avoir une deuxième fois, et en fait je suis très contente du résultat, et c'est très bien, c'est très bien comme ça, c'est comme ça que ça devait être. Maintenant je fais. Maintenant j'essaye pas de, tu vois, j'essaie de quitter ce monde où je me dis, c'est mon monde, hein, que je me suis créé, en me disant, toi, tu sais faire ça et ça, mais ça, c'est des gens compétents qui doivent le faire. C'est des gens qui m'ont appris, qui m'habituent.
Tu dirais que, en fait, la danse, pour toi, c'est vraiment aussi un peu une valeur sûre pour toi, là où tu sais que tu as la légitimité, ouais. Alors que, vu que c'est... Enfin, tu essayes de construire ta légitimité sur le champ, et donc là... Finalement, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur qui s'est infiltré, parce que tu me dis que finalement, pour faire du voguing, tu fonces, mais par contre, pour faire un clip, finalement, pour toi, t'aurais pu aussi avoir cette attitude un peu bille en tête et tout. Sauf qu'en fait, là, finalement, il y a un peu de doute qui s'est...
Non, mais en fait, on te persuade que c'est pas parce que tu dois faire les choses comme ça. Parce qu'on est formaté. Moi, je suis très formatée par les internets, tu vois, les réseaux, etc. Je crois ce que je vois, entre guillemets, tu vois. Mais donc je suis persuadée qu'il te faut un clip hyper léché, hyper clean, la bonne lumière, le bon gars, le bon réal.
Bah, tu t'es mis la pression.
Ouais, tu te mets une pression de fou, et puis tu te dis c'est ton bébé, t'as travaillé très fort. Là, c'est la première fois que c'est mon projet à 100%. Tu vois, c'est la première fois que je ne travaille pas pour quelqu'un. Dans ma vie.
C'est ton nom.
C'est mon truc. C'est à moi, c'est... Ça m'appartient à 100%, et du coup, pour ton enfant, tu veux le meilleur. Bon, bah, c'est pareil pour mon projet, tu vois. Tu veux le meilleur, donc tu te persuades de choses, quoi. Je me suis persuadée, mais encore maintenant, tu vois, ça peut revenir de temps en temps, tu vois. Je vais me dire, non, mais attends, parce que là, il me faut vraiment la bonne personne, c'est sûr. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, il te faut juste la bonne idée. La personne s'en fiche.
Et pour écrire tous ces textes, t'as eu autant de facilité? Il y en a qui ont mis plus de temps à sortir que d'autres. Et c'était quoi ton processus créatif ? Genre, est-ce que t'écrivais sur un coin de table dans un café, ou t'avais besoin de partir à la campagne ? Ça a été quoi ton processus créatif ?
J'écris quand même beaucoup, en règle générale, j'écris beaucoup de ce que j'ai. Enfin, tu vois, la manifestation, l'univers, messieurs, dames. Donc je manifeste beaucoup, donc j'écris beaucoup.
À la main.
J'ai des petits carnets et tout, j'écris. Qui sont dispersés partout dans chaque sac à main. Mais j'écris beaucoup, je manifeste beaucoup de choses. Et donc, dans le processus de création, alors c'est vrai que j'ai eu la chance jusque-là d'enchaîner 3 étés avec 3 résidences avec Dame Civile. Donc, c'est des résidences où on part une semaine, 10 jours dans le sud, peu importe, tu vois, dans une maison. Là, cette année, on est parti avec nos potes, donc c'est trop bien. Et on avait un endroit où on pouvait travailler. Et on travaillait toute la journée, on faisait du 10h, 19h, 20h. Tous les jours, et j'écris. Kylian Dary, qui est donc l'un des deux frères de Dame Civile, prend mes mots, m'aide à les mettre en place, tu vois, parce que j'ai pas encore, instinctivement, j'y arrive pas encore, tu vois, ça commence à venir, mais c'est difficile. Donc Kylian, il m'aide de fou, et Marvin, qui est un génie créatif musical, m'aide aussi beaucoup.
Et toi, t'avais un peu des instincts, des mélodies que tu voulais, ou pas du tout?
Ouais, j'ai des couleurs, moi, tu vois, je parle beaucoup en couleurs et en matière, tu vois, et dans l'espace, tu vois, j'ai beaucoup parlé de ça. Marvin, je le fatigue, parfois je me lève le matin, je dis, j'aimerais un truc, ça se passe dans l'espace, c'est très lourd, mais en même temps ça flotte, et il y a, oui, sous le touche, c'était ça, enfin, tu vois. Mais c'est super, et après, je m'entends trop bien avec eux, donc tu vois, on se comprend, donc c'est super.
Après, t'es peut-être plus visuelle aussi.
Je suis très visuelle, mais il faut que je vois les couleurs, tu vois, quand j'écoute de la musique, je vois des couleurs.
Et je me demandais, est-ce que, enfin, c'est vrai que tu projettes une image, de femme très forte. Est-ce qu'il y a quand même des moments où justement il y a quelque chose qui peut te faire perdre ta confiance en toi? Est-ce que ça peut être genre un complexe, une pensée limitante? Est-ce que voilà, et en quoi ça te bloque et comment tu arrives à le surmonter si tu y arrives?
Oui, moi on se l'est dit, hein, j'ai très peur, je suis très angoissée, je fais beaucoup de crises d'angoisse éclair, c'est l'enfer.
C'est ce que dont parlait Étienne, ces moments un peu de latence où finalement,
le doute.
Si on n'est pas dans l'action, toi, ça te plonges dans le doute.
Si tout s'endort, parce que tu sais, il y a des délais, tu dois attendre des réponses, attendre des choses. Waouh, pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est horrible parce que j'ai l'impression que du coup, les gens, ils sont pas intéressés parce qu'ils sont, ils vont, tu sais, ils me répondent pas vite, ça veut dire que tu n'es pas intéressé. Moi, quand je suis intéressée à un truc, je réponds immédiatement, tu vois. Donc, je me dis, vous kiffez pas, en fait, vous aimez pas ce que je fais.
Ouais.
C'est horrible. Vous n'aimez pas ce que je fais, vous aimez pas ma musique, vous aimez pas mon image, vous aimez pas ce que je dis, vous n'aimez pas qui je suis. Et moi, ça devient énorme. Et ça va me mettre dans le noir. Ça va m'éteindre pendant 3-4 jours.
Est-ce que, du coup, tes proches t'aident à prendre du recul par rapport à ça?
Franchement, je pense que Étienne, le premier, hein, on vit ensemble, on est mariés, il peut rien faire. Il me laisse. Mais parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Je suis vraiment... je m'éteins. Il y a une espèce de noir qui s'installe comme ça. Il va partir plutôt comme ça, d'ailleurs. Il s'installe comme ça, il remonte, et en fait, là, c'est noir. Et t'as beau me dire ce que tu veux. Beyoncé viendra me faire la bise en me disant « J'adore ce que tu fais », je serai là « Ouais,
d'accord ».
Et c'est terminé, en fait. Et il me faut... ça va mieux, avant je m'étais une
semaine. Beyoncé, quand même, je pense que ça remonterait. Mais
Non, mais Beyoncé, ça remonte. C'est vrai que ça peut passer, c'est quand même pas mal. Non, c'est vraiment ce timing-là, tu vois, où t'as tout un moment un peu. Ouais, des longs moments de doute, de latence, d'attente. Et là, là, quand t'as le temps de réfléchir, c'est foutu.
Et tu dirais aussi que tu te sens plus sensible aujourd'hui parce que quand t'étais au tout début, genre 21 ans, t'es encore dans l'insouciance.
Ouais, tu te dis
que là, aujourd'hui, j'imagine que t'as mûri, que tu comprends peut-être plus les enjeux de ce que tu entreprends aussi.
Complètement, t'as une autre façon de penser. Alors, c'est vrai que je fonce toujours quand même un peu tête baissée. Je dors encore pas tout vraiment suffisamment bien sur mes idées, mais je sais que les enjeux sont pas les mêmes, mais en même temps j'ai appris avec l'avant, donc tu vois ça va quand même plus vite, tu recommences pas les mêmes erreurs, je recommence rarement plus de 3 fois la même erreur, mais tu vois, donc t'avances plus vite quand même, tu vois. Non, et puis t'as d'autres problèmes à 30 ans. Moi, j'ai d'autres problèmes, tu vois. Tu veux faire un enfant, est-ce que tu peux faire un enfant? Bah non, parce que tu fais un métier artistique, donc t'as un métier d'image, donc tu peux pas être enceinte, parce que si t'es enceinte à ce moment-là, tu peux pas faire ça. Moi, c'est ça, maintenant, qui s'installe dans ma vie. C'est autre chose qu'à 20 ans où, ma seule contrainte, finalement, quand tu reviens un peu derrière, c'est pas, en fait. Il n'y a pas de contrainte à 20 ans. Là, à 30 ans, je réfléchis.
Est-ce que je peux me payer ce billet?
Oui.
Pour voyager.
Voilà. Exactement. Mais tu vois, là, c'est d'autres questions, c'est d'autres craintes, mais tu vois, par exemple, je faisais pas du tout d'angoisse à 20 ans. Pas du tout. Ça a commencé là, à 27 ans, 27, 28 ans.
Les enjeux sont différents.
Complètement. T'as peur, le temps passe, donc t'as peur. Il faut que je fasse ça vite parce que.
Ouais, et du coup, le temps qui passe, c'est un truc qui te. Enfin, dans un métier d'image, est-ce que c'est aussi pour ça que tu t'es dit, j'ai pas envie que mon corps ce soit mon seul gagne-pain? Ouais.
C'est clairement pour ça. Parce que tu peux pas. Tu peux pas compter sur ton corps toute ta vie.
Ok.
C'est comme choisir son mec par pur esthétisme. Moi, c'est une erreur. Ouais. Je vous le dis, Wayfarer, c'est une erreur.
Il y en a qui font ça.
Bah, c'est une erreur, je vous le dis quand même. Non, vaut mieux en choisir un drôle qu'un beau, tu vois. Vraiment.
Et est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans la vie?
L'injustice.
Est-ce que tu as été, toi, témoin ou victime, peut-être, de situations justement comme ça
Ouais. Bah, je suis une femme danseuse dans le milieu artistique. Au niveau de l'injustice, on est bueno. J'en ai vu, différente, mais j'en ai vu. J'ai été aussi dans une entreprise en tant que femme et salariée. Donc, Crisis, c'était une entreprise, hein, dirigée par des hommes. On te fait quand même furieusement croire que c'est les femmes qui... Pas du tout, c'est dirigé par des hommes. Non, moi, c'est l'injustice en règle générale, ce truc de... lui, il a du talent ou elle a du talent. Pourquoi c'est pas elle qui est là-haut alors que... C'est, tu vois, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça où... Voilà, ça me touche, ça m'énerve. Et puis, j'aime pas les gens qui... Je me bats aussi un peu contre ce truc des gens qui baissent pour eux monter. Ça peut
m'en... Il y a de la place pour tout le monde, en fait.
Il y a une pyramide. C'est comme ça. Il y a un jeu, c'est la pyramide. Il y a forcément des gens en bas. Et c'est forcément moins haut. C'est OK. Mais c'est OK. Moi, je suis très OK avec ça. Et si tu es quelque part dans ta pyramide et que t'es bien... Il n'y a pas de souci. Mais personne n'a besoin de défoncer quelqu'un pour réussir. Et je ne suis pas sûre que ce soit très payant dans tous les cas. Mmh. Moi, je ne comprends pas. Et c'est un truc qui m'a révoltée parce que du coup, j'ai été confrontée, j'en ai vu, j'ai des personnes qui ont essayé de me rabaisser moi pour briller aux yeux de quelqu'un d'autre. Mais tout se sait dans la vie de toute façon, tout le temps, toujours. Donc.
Ouais, c'est le karma, quoi.
Karma. Je dis l'univers s'en charge très bien. J'ai pas besoin de bouger mon canapé. Mais ça, c'est vraiment un truc.
C'est ce que disait Paul.
Ouais.
Que toi, tu vas pas aller écraser les autres pour t'imposer toi. Et un peu ce que tu disais finalement par rapport à ce qui te révolte, c'est que finalement, ça va savoir en fait si toi, tu es doué pour ce que tu fais. J'ai l'impression que.
C'est injuste, hein, tu vois. Il y a des gens hyper talentueux qui sortiront jamais de leur salle de bain, et c'est comme ça, c'est la vie. On repart sur cette histoire de pyramide, et c'est vrai que c'est un peu injuste, tu vois. Mais maintenant, avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, etc., tu peux sortir de ta salle de bain quand même du jour au lendemain très, très fort, tu vois, ce qui est hyper cool aussi, hein.
C'est vrai que tu utilises beaucoup aussi, j'ai vu TikTok et tout, j'adore.
Ouais, TikTok, ça fait glauque.
J'adore te suivre sur TikTok.
Ouais, TikTok, c'est marrant. TikTok, c'est un peu un...
Quand tu t'habilles, je me souviens, j'avais vu des vidéos où tu choisis des tenues avant d'aller à une soirée. J'ai découvert des tips de danseuses, d'ailleurs, pour mettre un top avec des collants.
Bah ouais, tu fais des collants.
Non, c'est vrai.
Astuce de rat, ça s'appelle sur TikTok.
Non, mais t'es très forte.
Je vous
invite tous à aller voir.
TikTok, c'est marrant. TikTok, il y a un truc un peu moins esthétique, beau, précieux qu'Instagram. Ouais. Et disons qu'Instagram, je laisse sur le côté esthétique, joli, c'est bien. Mais TikTok, tu peux être un peu plus brut, un peu plus proche en fait des gens, donc j'aime bien.
Ok. Ouais. Bon, bah écoute, on va continuer à te suivre. Et est-ce que tu dirais que tu es féministe?
Aujourd'hui, le féminisme a changé de définition. Il y en a plein. Donc,
c'est quoi ta version alors du féminisme?
Ma version du féminisme, c'est ma liberté. Ma liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, de ne pas avoir à poser la question à qui que ce soit, une femme ou un homme, de prendre mes propres décisions et mes choix. On l'avait souvent cette question au Crisis, souvent posée par des hommes d'ailleurs, qui te posaient la question « Et votre petit copain, il est d'accord avec votre métier ?» Bah non, du coup, c'est vrai. Bah ouais. Non, je vais rentrer chez moi, pardon. C'est vrai que c'est pas du tout acceptable qu'un homme puisse accepter ce métier. Et en fait, je répondais toujours, bah, et toi, est-ce que ta meuf est d'accord avec ton métier de journaliste? Là, ici, maintenant, tout de suite, dans les loges du Crisis Horse, avec 5 meufs au peignoir, est-ce que t'es d'accord avec ça, toi? Et ta meuf, elle est d'accord avec ça? Ou ton mec est d'accord avec ça? Non, mais c'est pas pareil, c'est pareil. C'est pareil. Je dis, en fait, c'est une question de merde. C'est nul comme question. Donc, moi, ma réponse au féminisme, c'est, si je le suis, c'est, je le suis, j'aime autant les femmes que j'aime les hommes. J'aime l'être humain en règle générale. J'ai encore de l'espoir pour l'être humain. Et je suis juste libre, en fait, de faire mes propres choix. Et si j'ai envie de m'habiller d'une telle façon, de me maquiller d'une telle façon ou pas, rien ne prouvera ma féminité Et personne ne prouvera que je suis une femme ou pas, tu vois.
Ok. Et aujourd'hui, donc tu as sorti 3 titres.
Ouais.
Est-ce que donc il y a un album qui sort aussi Comment ça se passe? Raconte-nous. Ouais.
Il y a un EP qui sort le 24 janvier.
Ok.
Voilà, donc il y a, on va faire une soirée, une release party le 24 janvier. Je te donnerai plus d'infos un peu plus tard.
Parce que dans la logique, c'est quoi? C'est de sortir plusieurs titres, voir comment ça
ouais,
prend.
J'ai pris un peu la température à droite à gauche. Okay. Moi, je l'ai vraiment sorti organiquement, tu vois. On n'a pas fait de promo, pas de sponsorisation. On l'a sorti un peu organiquement, voir comment ça se passait. Maintenant, l'EP, on passe les bouchées doubles. On a une maison de distribution avec nous, on a une RP avec nous. Donc, j'ai mes 2 managers qui sont avec moi depuis le début aussi, qui sont super.
Oui, donc là, ça, ouais, ça prend de l'ampleur, là.
Oui, c'est. Ah, on a fini de rigoler. C'est... Ah non, non, mais après, ça prend de l'ampleur. Ça ne veut pas dire que ça marchera, hein, mais tu rajoutes des billes à ton jeu pour pouvoir avancer un peu, tu vois. Aller un peu plus loin, chercher plus. Donc ouais, là, je suis hyper contente. Et c'est 6 titres qui sortent, que j'adore, que je trouve super. Et après, voilà, c'est le début d'un premier EP. Mmh. Il y en a un deuxième qui va sortir pas très longtemps derrière aussi.
Est-ce que tu rêves de faire une émission de télé ou... enfin, est-ce qu'il y a justement une scène que tu rêverais de faire pour soutenir ton album?
C'est dur. De toute façon, on fera Bercy, hein, et le Stade de France, sûrement, tu vois, il n'y a pas de souci.
Mais... Go, go, go.
Mais non, après, j'attendrais bien au Crazy faire un show, mais en fait, un spectacle, un concert, mais le système son du Crazy est abominable, donc j'irai pas au Crazy faire un spectacle. Mais non, après, non, j'aimerais juste, en fait, j'aime être sur scène, donc peu importe la scène, peu importe l'endroit, je veux juste pouvoir rencontrer des gens, parler, le public, le machin, j'ai besoin de ça, tu vois, je reparle de mon monstre, mais c'est le monstre dont j'ai besoin, tu vois.
Faudrait que tu nous racontes ce que c'est de danser, enfin, comparer ta première fois sur scène en tant que chanteuse et la première fois sur scène en tant que danseuse.
Je vous en dirai des nouvelles.
Là, on veut absolument savoir. Et du coup, bon, écoute, j'ai encore deux, trois questions pour toi pour la fin de ce podcast. Mmh. J'aimerais savoir aujourd'hui, donc merci pour de t'être livrée sur vraiment tes forces, tes doutes. Enfin, je trouve que c'est vachement fort de voir que voilà, on traverse tous des moments compliqués, mais c'est aussi important de célébrer ses victoires. Et j'aimerais savoir quelle est ta plus grande fierté.
C'est ce qui se passe pour moi aujourd'hui, tu vois. C'est d'avoir lâché une situation confortable, un truc confortable pour prendre des risques et faire autre chose qui me plaît. Ça, c'est ma fierté, tu vois. De pas être resté dans la facilité.
Ok. Et tu dirais que tu te sens alignée avec toi-même aujourd'hui?
Ouais. Plutôt pas mal. On est à 8 sur 10. Forcément, hein, il y a toujours un truc où t'es là. Mais je suis quand même sur un bon 8 sur 10. Donc je suis contente.
Ok. Bon, ma prochaine question, c'est un peu une petite question signature de fin de podcast. Mais je pense que tu as déjà un peu répondu. C'est quel challenge tu aimerais te fixer pour l'année prochaine?
En plus de faire plus de scènes, tu vois, remonter sur scène, plus de concerts, et puis continuer à travailler sur ma musique encore plus loin, tu vois. Ouais.
Bah écoute, on te souhaite de faire des Bercy.
J'aurai une loge à Bercy, y a pas de souci.
Exactement. Et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de Point Fort?
Tu vois, dans une lignée. Il a fait une note vocale au début, mais c'est Paul Duchemin.
Ok.
Ouais. Parce que, outre du fait que ce soit mon ami, le gars est un puits d'idées, de créativité, d'audace. Et son parcours de vie a été vraiment difficile. Et il en est arrivé là, comme ça. Par aussi beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et maintenant, c'est super, tu vois. Donc, non, Paul Duchemin, j'aimerais bien l'entendre.
Ok.
Ok, c'est noté.
C'est noté, voilà.
Trop cool. Bah, merci infiniment, Fleur, pour toutes ces confidences. Ouais, et je suis trop contente et très fière de toi, surtout, de voir ce parcours de dingue.
Ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je suis contente d'avoir été avec toi.
Donc, merci infiniment. Merci et j'ai hâte que nos auditrices puissent découvrir qui tu es et surtout découvrir ta musique qui est bien dans tes tentes. Je ne te remercie pas.
Pas de problème, ça fait plaisir. Ouais, désolée. Je suis pas désolée.
Merci Fleur. Merci. Et bonne chance pour la suite et pour cette première scène.
Merci d'être arrivé au bout de ma conversation avec Fleur Copin. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a montré tout ce qu'il est possible de réaliser en se faisant confiance. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser une note de 5 étoiles. Tu peux aussi nous dire ce que tu as pensé en le repartageant sur Instagram, sans oublier de nous taguer @okan_studio. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Point Fort.